Dans cet épisode d'Emmaüs décrit, me semble-t-il, ce que nous faisons avec l'aide de l'Esprit-Saint. Nous essayons de reprendre les Écritures en ce qu'elles concernent Jésus et pour le reconnaître, tout simplement, pour rentrer en relation avec lui. Quel est le but de Jésus, on peut se demander, en écoutant l'évangile d'Emmaüs, quel est le but de Jésus qui fait semblant de ne pas être au courant de ce qui s'est passé à Jérusalem? Quel est le but de Jésus, c'est ce que je disais à la messe tout à l'heure, quel est le but de Jésus qui fait semblant d'aller plus loin? Et c'est quand même une technique un peu surprenante. On dirait qu'il n'est pas vrai. Et bien le but de Jésus, c'est de faire que les disciples puissent le reconnaître, puissent mettre leur confiance en lui vivant avec eux. Et dès lors qu'ils ont posé cet acte de foi, dès lors qu'ils l'ont reconnu, il disparaît à leurs yeux. Il prend la forme, le mode de présence habituel du ressuscité aujourd'hui, c'est-à-dire sacramentel, dans le temps de l'Eucharistie, dans la parole proclamée, et invisible, là où deux ou trois sont réunis au milieu d'eux, je suis là au milieu d'eux. Voyez. Et ainsi Jésus va conduire ses deux disciples à cet acte de foi qui, une fois posé et uni au Christ vivant présent, va les conduire là où ils ne savent pas. Et ça, je vous le rappelle, à nous qui nous mettons à la suite du Christ, qui lorsque nous entrons dans l'oraison par la foi en union avec le Christ, sommes menés là où il voudra bien nous mener. Et s'il nous faut repartir à Jérusalem après une journée de marche, eh ben, nous repartirons dans la force qu'il nous communiquera, lui le ressuscité. Vous voyez ? Et ce contact, voilà, ce qu'on sait, c'est que Jésus veut les conduire à ce contact avec lui, qui va les constituer d'ailleurs, eux, Cléophas et ses disciples, témoins, voilà, à la manière dont lui le sait. Et Cléophas, qui est un des deux disciples nommés, mais pas l'autre, alors ça peut être notre place à nous dans ce chemin que nous faisons. Alors nous allons faire comme Jésus, qui partait de Moïse et des autres prophètes, là ce soir nous allons contempler Moïse et tirer quelques fils à partir de sa vie et dans sa relation à Dieu pour notre propre prière. Et puis nous ferons pareil avec David, il faudra bien ça, pour nous nourrir jusqu'au mois de juin, la prochaine rencontre. Alors Moïse, qui a un destin très particulier, je vais regarder ça, cette conception en Égypte, et puis cette adoption par la fille de Pharaon, donne à cet homme, ce fils d'Israël, un destin bien particulier, et dont il faut honorer toute la patte humaine de ce Moïse. Vous voyez sa conception, la technique de sa mère pour qu'il vive, alors que les Égyptiens contrôlaient la natalité des enfants d'Israël. Ensuite, de sa situation finalement à la cour de Pharaon et son choix de prendre parti pour son peuple, au prix qu'il a du sang sur les mains, notre Moïse. N'oublions pas qu'il a tué l'Égyptien pour défendre les siens. Il y a une ambiguïté, comme dans toute figure humaine, qui nous manifeste que Dieu prend l'humanité où elle en est, et où finalement, dans notre rencontre avec lui, nous sommes pris là où nous en sommes. Même Moïse, voilà, qui se laissa aller sur la voie de la violence et qui découvre, après sa rencontre avec Dieu, une voie non praticable. Il est donc appelé et il se met au service de Dieu, et on va voir tout au long de sa vie comme une purification, un dépouillement de lui-même pendant ce temps au désert qui va le conduire et par lui le peuple aux portes de la terre promise. C'est un contemplatif dans l'action, c'est-à-dire que c'est... Il est celui qui va avoir toujours à cœur de garder le contact avec son Seigneur, et en même temps n'avoir de cesse que de rester en contact avec le peuple qu'il a amené, en l'écoutant, en souffrant avec lui, en supportant son infidélité et en le conduisant finalement, fidèlement. Alors il y a ce passage au départ de, on peut dire, de sa mission, ce passage au buisson ardent. L'image du buisson ardent qui se consume sans finalement se détruire peut nous consoler lorsque nous nous mettons en présence de Dieu. Amour de Dieu, vous voyez, qui est tout puissant, on le dit souvent, mais qui n'anéantit pas l'homme, qui transforme l'homme à son contact, mais qui ne l'anéantit pas, au contraire même, qui lui donne pleinement ce qu'il est. Alors je cite le passage de l'Exode au chapitre 3. Moïse parvint à la montagne de Dieu à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Moïse regarda le buisson, il ne se consumait pas. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir cet étrange spectacle et pourquoi le buisson ne se consume pas. Le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse, dit-il, et il répondit, me voici. N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il dit, « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Alors Moïse se voila la face, car il craignait de fixer son regard sur Dieu. Alors, cette description est intéressante. Il s'agit pour Moïse, qui cherche à entrer en relation avec Dieu, de faire un détour et de bien observer finalement ce qui se passe. Comme si pour prier, il nous fallait faire un détour. Il nous fallait regarder avec la foi et cette confiance au plus profond de nous-mêmes, en ce château intérieur, comme dirait Thérèse d'Avila, chercher où réside celui que nous voulons rencontrer. Et dans ce tour que fait Moïse du buisson, il y a ce qu'on peut appeler, nous, dans notre prière, cette mise en présence de Dieu, qui fait que nous déposons, nous faisons le tour peut-être de ce que nous étions en train de faire, de la journée que nous portons, pour nous tenir finalement en la présence de celui qui est là dans cet étrange phénomène, mais qui peut être là aussi dans cet étrange silence et paix que nous découvrons au cœur de notre cœur. Et le Seigneur l'appelle. Et Moïse répond, « Me voici. » Alors la réponse de Moïse à l'appel de Dieu, comme d'ailleurs la réponse d'Abraham avant le sacrifice d'Isaac, ce sera aussi la réponse de la Vierge Marie, c'est l'attitude qui nous fait entrer dans la prière. Celle du cœur prêt à écouter. Après cette mise en présence, eh bien il y a dans ce « me voici » qui s'exprime, eh bien justement en nous retirant, en fermant la porte de notre chambre, comme dit l'Évangile, ou en relisant un passage de l'Écriture, il y a voilà cette détermination personnelle de nous mettre à l'écoute du Seigneur, de retirer ses sandales comme Moïse, voilà, nous dépouiller finalement de nos bons sentiments ou de notre peur ou de ce qui nous voilà de oui ça peut être aussi se dépouiller de, vous voyez, nos familiarités ou nos habitudes avec Dieu, car finalement en sa présence c'est toujours nouveau, c'est toujours c'est toujours plus grand que ce qu'on peut imaginer, mais voilà, je suis là, prêt à écouter, peser, bon, il s'agit de se désagiter, vous voyez, voilà. Et d'écouter. Alors dans ce passage, et notamment dans le nom que le Seigneur se donne, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on découvre toute cette fidélité de Dieu à son histoire, à son alliance avec son peuple. Vous voyez, lorsque nous nous mettons en présence de Dieu, c'est du Dieu fidèle à toutes ses alliances, à tout ce qu'il nous a déjà donné, à tout ce que nous avons aussi déjà découvert de lui, que nous entrons, et il inaugure finalement ce contact de foi, ce contact de l'oraison, une relation qui demeure. Souvenez-vous, Jésus, c'est un peu compliqué, mais enfin Jésus, lorsqu'il parle de la résurrection, dit quant à savoir si les morts ressuscitent, n'est-il pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ? Il reprend cette appellation de Dieu pour manifester cette fidélité à son alliance et ce contact toujours actuel finalement de Dieu avec Abraham, Isaac, Jacob et avec nous, et qui dit son éternité et finalement sa capacité à Dieu à nous donner à nous hommes d'entrer dans son éternité. Et finalement, lorsque nous entrons en oraison, nous entrons avec, en relation avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Marie-Odile, de Gervaise, de Charles, de Nicolas et de chacun d'entre nous. Du Dieu vivant qui entre en relation avec nous et qui nous donne d'entrer dans ce qu'il est lui, c'est-à-dire dans son éternité, dans sa divinité. Alors, il y a un échange un peu disproportionné entre les deux sujets, alors qu'on voit bien dans le buisson ardent, puis qu'on verra plus tard, lorsque Moïse voudra voir Dieu. Voilà. Et pour cela, il y a un passage. Et pour goûter la pleine communion avec notre Dieu, il y aura notre mort. Mais, dès lors, dans cette relation de foi et que nous vivons dans la prière, nous entrons déjà dans la vie de Dieu. Et il nous donne, oui, de goûter ce qu'il est lui-même. Alors ensuite, il y a la grande mission dans ce dialogue qui se poursuit au chapitre 3 de l'Exode que nous connaissons, où Dieu va confier à Moïse la mission de libérer son peuple de Pharaon. Et la résistance de Moïse, qui va d'ailleurs difficilement accepter, et qui va recevoir un adjoint en la personne d'Aaron. Alors, c'est un vrai combat. En tout cas pour nous, dans notre prière, c'est pas tant, vous voyez, le combat d'accepter notre vocation, que finalement le combat du dialogue avec Dieu, de l'écoute. La parole de Dieu n'est pas forcément celle qu'on prévoit. La parole de Dieu, si elle purifie, ne console pas forcément, ou si elle console, ne répond pas forcément à telle ou telle attente, vous voyez. Il y a toujours un travail d'ajustement, d'adéquation avec celui avec lequel on rentre en relation, voilà. Et qu'on voit activement dans ce dialogue de Dieu et Moïse, et adéquation, bien sûr, où il y a un travail de notre part, mais où finalement nous découvrons là, par l'envoi d'Aaron, le fait que Dieu aussi, finalement, est sensible à notre capacité d'accueillir ou pas ce qu'il est, et où on le voit finalement faire effort lui-même, si je puis dire, pour pouvoir être accueilli, goûté, on pourrait dire, pour parler du langage de la prière, et qui lui donne en Aaron, et puis par sa parole, et puis par le bâton, des moyens d'appui pour le soutenir finalement dans sa foi en Dieu et dans sa mission pour la réaliser. et il va le conduire, voilà, dans cette mission, et Dieu par lui va opérer la libération qu'il veut et que nous venons de commémorer dans la vigile pascale. Et puis voilà que Moïse entre dans ce long temps au désert avec son peuple, un temps de dialogue très clair de Moïse avec Dieu qui se poursuit. Hein, il y a l'appel du départ et puis il y a ensuite l'expérimentation de l'action de Dieu qui libère Israël. Mais cela n'est pas terminé, comme il peut y avoir des hauts, des grâces. Cela ne veut pas dire qu'on est au terme, et on le sait bien, c'est pas parce que dans l'oraison on a pu goûter une forme de paix ou de quiétude, la fois suivante ça sera la même chose. On rentre dans, après voilà, un premier temps finalement de la vie spirituelle qui est cette détermination finalement de notre volonté d'entrer en contact avec lui. Il va y avoir un temps de purification et probablement plus long que le premier et que décrivent les saints, et qui certes est chronologique, mais pas que. Il n'est pas dit que pendant ce temps nous n'ayons pas des transfigurations ou des moments d'éclat ou de rencontres que nous pourrions qualifier du sommet de la vie spirituelle et encore de la purification. Alors, c'est très bien organisé chez les saints du Carmel, cette progression de la vie spirituelle, mais en pratique, il y a des expériences du milieu à la fin et de la fin au milieu. Enfin, voilà, c'est moins systématique que ça en a l'air, du moins je pense. Mais en tout cas pour Moïse c'est quand même assez clair, et on peut pas dire que Dieu l'a appelé à lui au moment de sa mort alors qu'il n'était pas arrivé au terme de sa mission, et pourtant vous voyez il n'entre pas en terre promise. Alors ça c'est intéressant pour notre raison, parce que encore une fois, nous ne verrons Dieu, nous le verrons, mais nous ne le verrons qu'après notre mort. Et dans ce désir de Moïse de voir Dieu, et que nous pouvons porter, ben, il y a cette promesse extraordinaire que nous le verrons. Mais il y a ce passage que nous sommes en train de vivre, qui est cette mort à nous-mêmes, et cette mort tout court, par laquelle nous le verrons, c'est à laquelle on n'échappe pas. Mais grâce au Christ ressuscité, nous avons cette espérance aussi solide et sûre que nous mourrons, de le voir. Là, il y a dans ce désir de voir Dieu et de le rechercher, avec Moïse, il y a cette espérance et ce passage qui marche ensemble et que nous éprouvons tout au long de notre contact avec le Seigneur. Cette espérance de plus en plus sûre de la rencontre et, j'allais dire, cette expérience de plus en plus sûre de notre mort. Ça marche ensemble. Et Moïse souffre. Moïse souffre dans cette expérience au désert avec le peuple. Il souffre notamment de sa solidarité avec le peuple. Ce peuple a la nuque raide, comme dit le Seigneur. On se souvient bien sûr de Moïse qui redescend avec les tables de la loi et qui découvre l'adoration du veau d'or. Et qui dit à Dieu, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fabriqués un dieu en or, pourtant, s'il te plaisait de pardonner leurs péchés, sinon, efface-moi de grâce du livre que tu as écrit. La solidarité de Moïse avec son peuple. Je dis cela parce que nous pouvons éprouver dans notre vie chrétienne cette solidarité avec le monde douloureusement. Et elle n'est pas, cette solidarité n'est pas tant le signe de notre humanité pécheresse que de notre amour, vous voyez, de Dieu qui croit en la miséricorde. Comment dire, le fait de vivre, de porter notre péché, la douleur de notre travail, et de participer d'ailleurs même à des structures qui ne sont pas parfaitement ordonnées au bien, et de le souffrir, c'est-à-dire de le vivre douloureusement, mais de ne pas y échapper, est l'expression de notre foi en la miséricorde de Dieu. Parce que quelquefois, on ne choisit pas ce mal parfois auquel on participe. Alors, pour prendre un exemple peut-être un peu plus simple, nous décidons de garder une relation d'amitié avec une personne qui, selon nous, s'éloigne du bien, voyez, s'éloigne de Dieu d'une manière ou d'une autre, mais nous décidons résolument de garder une amitié avec cette personne, de garder un lien, parce que nous croyons que par ce lien, et nous espérons que par ce lien, que par notre amitié, par notre fidélité, nous pourrons être un témoignage, finalement un signe, sur la voie vers le Seigneur, sur la voie vers le chemin vers le bien, vous voyez. Et on peut souffrir ça, et cela peut nous être coûteux. Ça, c'est notre solidarité avec nos frères. Mais qui portait dans la prière, et en fait, nous donne de participer tout simplement à la mission, alors bien sûr de Moïse, mais bien sûr du Christ, prêtre, qui épouse notre humanité pour la porter vers Dieu. Et Moïse, là, ne fait qu'un avec son peuple. Si tu ne lui fais pas miséricorde à ce peuple à la Nucrède, alors efface-moi avec lui. Effectivement, nous ne sommes pas dignes d'être en lien avec toi. Mais si nous sommes dignes, mais si tu fais miséricorde, alors je peux demeurer vivant et donne-nous cette miséricorde, vous voyez. Souffrance, qu'on voit exalté en Jésus, bien sûr, puis qu'on a commémoré, notamment au long du chemin de croix, on voit Jésus épouser notre humanité et qui se fait solidaire sans en être auteur de nos péchés, de notre humanité pécheresse en tout cas. Il ne pêche pas, lui. Moïse obéit. C'est étonnant dans le chemin de la vie, dans le cheminement de Moïse, cette obéissance à Dieu. Depuis le buisson ardent, et au début de sa vie, il a choisi librement de prendre part pour son peuple. Il a tué l'Égyptien, il est parti au désert, il a fui, il a posé des actes, finalement tout seul. Et Dieu n'y était pas d'ailleurs étranger. Et puis il y a un moment donné, précisément après le buisson ardent, où il a choisi. Et il a obéi jusqu'au bout, même jusqu'à sa mort, où Dieu va le conduire et où il va mourir selon l'ordre du Seigneur, sur le mont Nebo. Et juste, sa vie est une obéissance, une configuration à la parole de Dieu, et en cela il a dit Jésus, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. On comprend mieux l'obéissance quand on est enfant, où nous apprenons à obéir à nos parents, à nos professeurs. C'est plus difficile concrètement, de mettre des mots, vous voyez, derrière cette obéissance à Dieu. Je crois qu'il y a quelque chose dans notre état de vie, dans notre appel, qui nous conduit à l'obéissance. Précisément, c'est l'accomplissement fidèle de ce à quoi nous sommes appelés. Telle ou telle mission. Alors bien sûr, père, mère, prêtre, ça va. Mais ça peut être simplement la mission de notre travail. Ça peut, comme tout à l'heure je disais, la mission de l'amitié ou la mission confiée par tel ou tel, vous voyez, qu'on reçoit comme tel. Et par là, on obéit à Dieu. Alors quelquefois c'est plus difficile, comme je disais, comme adulte, parce que ces missions reçues, nous y avons participé à les recevoir, parce qu'on a discerné, qu'on avait vu effectivement que c'est bien tel ou tel service qu'on peut rendre, que c'est bien telle ou telle chose qu'on a à accomplir. Et donc on a plus de mal à voir quand finalement en y étant fidèle, puisque c'est nous qui avons décidé de faire telle ou telle chose, on obéit ou pas à Dieu. Et pourtant, voilà, il y a quelque chose de cette obéissance, puisque précisément dans l'obéissance, il y a ces deux parties. Le fait d'écouter, d'être attentif aux appels qui peuvent nous être adressés, et le fait de nous y tenir. Et si après, au fur et à mesure des années ou des mois, on ne perçoit plus dans telle ou telle mission un appel, et ben on change. Mais l'obéissance, elle contient ces deux choses. Le fait d'être attentif à l'appel du Seigneur, par les médiations qui sont celles de notre vie et de notre vie sociale, chrétienne, citoyenne, dans l'entreprise, peu importe, vous voyez. Et donc cette attention, oui, à ce à quoi nous pourrions être appelés, et puis cette fidélité à ce à quoi nous avons consenti, voilà, tel ou tel appel que nous avons reçu comme tel et sur lequel nous nous sommes engagés. Voilà. Obéissance que nous voyons incarner finalement jusqu'au bout dans la vie de Moïse, et là encore annonçant cette figure du Christ médiateur, berger et en même temps dans cette dépendance complète d'amour du Père. Alors en résumé, ce petit point je voulais souligner sur Moïse, une figure certes pas banale, mais une figure humaine, vous voyez, avec son ambiguïté. Un appel et une expérience de la rencontre du Seigneur forte au buisson ardent, à laquelle Moïse répond doublement, en exprimant sa volonté après un dialogue, hein, et puis, viril avec Dieu, une volonté d'obéir à Dieu, et voyez de le voir, d'aller encore plus loin. Mais je veux te voir. Non, on ne peut pas me voir sans mourir. Alors, il reçoit différents signes. Donc voilà, réponse de Moïse, engagement de sa volonté, et en même temps, qui le met en marche. Et ça ne s'arrêtera qu'à la mort. Dialogue purifiant au désert, souffrance de Moïse, et par là, participation au sacerdoce du Christ. Solidarité à l'humanité pécheresse, alors que nous communions à Dieu. Obéissance qui le conduit à la pleine communion. Finalement, en voyant la terre promise, vous voyez, c'est déjà l'entrée dans la vie. On appelle l'entrée dans la vie, la mort. Sur le mont Nebo. Alors une autre patte humaine, notre époque, c'est un petit peu un patchwork ou des différentes formes, voyez, que je nous présente pour que nous, s'il y en a bien une qui nous, voilà, un trait qui nous accroche dans une de ces figures pour nous conduire à reconnaître Jésus ressuscité présent à notre présence, voyez. David, choisi par Dieu pour être roi, mû par l'esprit, dans l'épreuve comme dans la victoire, dans la pénitence comme dans l'allégresse, qui chante Dieu, à qui nous attribuons les psaumes. Alors, comme vous savez, David n'est pas le premier roi d'Israël, il va succéder à Saül, et cette succession va pas se faire, on va dire, à la manière humaine, parce qu'il n'est pas le fils de Saül, il n'est pas le plus fort de sa descendance. Et finalement, dans l'appel de David à la succession de Saül, on découvre comment, lorsque nous prions, nous avons à nous mettre à l'école de Dieu, et c'est-à-dire apprendre à regarder au-delà des apparences, comme Abraham et Moïse qui se sont laissés saisir par Dieu pour entendre, pour voir, pour agir selon ses vues à lui et pas les leurs. Dans le choix de David, ce petit dernier, petit berger, eh bien nous découvrons que le choix de Dieu n'est pas un choix selon nos simples critères humains. Et finalement, donc dans cette histoire de l'appel de Moïse, nous découvrons l'histoire en fait d'une transformation par appel de Dieu. Comment l'Esprit, depuis qu'il reçoit l'onction, symbole de l'Esprit Saint, qui lui est versé par le prophète Samuel, lorsque il le trouve, après avoir vu tous les fils de Jessé, on va voir un homme mu par l'Esprit, encore une fois transformé, mais pas d'un seul coup. Alors, dans les psaumes, qui est ce recueil de chants, de lamentations, de prières, de paroles adressées à Dieu, on découvre par David, au sein même de la parole de Dieu, des mots de l'homme qui s'adresse à Dieu. Alors, je ne présente pas tout à fait comme Moïse, parce que effectivement, ces psaumes ont quand même une place particulière pour nous qui désirons prier, entrer en relation avec Dieu, puisque précisément, par ces psaumes, finalement, ce que Dieu nous dit, c'est qu'il a tellement envie que nous lui parlions, et qu'il connaît notre difficulté à oser ouvrir la bouche en sa présence, qu'il nous donne les mots. Et il nous donne les mots. Comme, finalement, un enfant qui apprend à parler, à qui les parents font acquiescer en donnant la réponse ou la phrase que l'enfant pourrait dire. Vous voyez. Il nous donne les mots. Et alors dans ces mots, c'est quand même intéressant de voir toutes les expressions, tout l'échantillonnage finalement de sentiments qui peuvent habiter le cœur de l'homme. Et que Dieu veut connaître, et dont l'expression va entrer dans le langage de ce dialogue avec Dieu. Dans le langage de notre raison, il n'y a aucune forme finalement de parole ou d'état qui est exclu. Nous pouvons toujours en fait prier, même en révolte contre Dieu. Ou même quand on est comblé, il y a toujours une expression possible. On peut dire ça un petit peu comme ça. Alors, il y a différents paramètres. Ces expressions s'incarnent dans la vie de David. Alors, on connaît bien par exemple le passage de la bataille avec Goliath, avec le signe finalement de la force dans la faiblesse. Que saint Paul reprendra, ma grâce te suffit, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Et on voit vraiment incarner cela dans ce passage de Moïse et Goliath. Mais on voit aussi cela dans la prière, dans l'épreuve de David, lorsque Saül, finalement jaloux de lui, et de sa victoire va en vouloir à sa vie. Et on connaît d'ailleurs voilà ce chemin, cette prière de David qui le fait crier vers Dieu, hein, « Pitié, mon Dieu, pitié pour moi, en toi je cherche refuge » et qui va se réfugier dans ces grottes. Nous qui y sommes allés il n'y a pas longtemps avec certains, les grottes d'En-Gedi, là au bout de la mer Morte, on évoque ce refuge de David alors que Saül est par à sa poursuite. Et puis vous savez, cette amitié finalement du fils de Saül avec David qui va faire que David ne sera pas tué. Et puis cette loyauté, cette grâce, on va dire, que David a reçue du Seigneur de ne pas se venger de la méchanceté de Saül et de couper seulement le pan de son manteau sans le tuer alors qu'il dormait et qu'il l'avait à sa merci, hein, dans le livre de Samuel. David agit avec miséricorde envers Saül, mais s'il peut agir ainsi, c'est précisément à cause de son union avec le miséricordieux. Union à laquelle il a été conduit, et j'aime penser cela, pour nous qui cherchons à rentrer dans cette amitié avec Dieu, par l'oraison, par l'amitié avec Jonathan. Jonathan qui a juré, malgré le fait que son père soit jaloux et que lui-même ne soit pas choisi pour être le roi sur Israël, il dit, voilà, moi je te resterai fidèle et je vais te dire tout ce que mon père a dans sa tête. Et moi, je vais essayer de faire changer d'avis mon père, hein, au nom de cette amitié qu'ils ont tous les deux. Nous pouvons grandir dans notre amitié avec Dieu par nos amitiés humaines. Pas qu'il faille nous attacher à des personnes humaines, puisqu'il s'agit de s'attacher à Dieu, mais que nos amitiés humaines peuvent nous conduire et finalement élargir notre cœur à cette amitié avec Dieu. Et on sait combien on ne peut pas être chrétien seul, combien dans la foi nous avons besoin de nous encourager. Ne serait-ce déjà que pour nous donner la parole de Dieu. Pour pouvoir entendre la parole de Dieu, il faut qu'elle soit proclamée. Et pour qu'elle soit proclamée, il faut bien que quelqu'un la dise. Alors que ça soit dans la liturgie ou que ça soit dans une conversation, nous ne pouvons nous mettre à l'écoute que si quelqu'un nous parle. Alors on peut s'exercer à écouter Dieu en commençant à écouter, voyez, nos frères. Et je crois qu'il y a dans une analogie finalement entre nos amitiés et cette amitié que nous cherchons à construire avec Dieu dans l'oraison. Et là nous voyons dans cette histoire de David, dans ce récit de l'amitié de David avec Jonathan qui va conduire finalement David à faire miséricorde à Saül, vous voyez, un fruit. Un des plus beaux fruits de cette double amitié de David avec Dieu et Jonathan. Voilà. David qui met toute sa force en Dieu et qui en même temps s'appuie sur ce petit appui humain qui lui reste alors qu'il est menacé. Voilà. David, c'est aussi la joie après la prise de Jérusalem et après avoir vaincu ses ennemis, il va vouloir faire monter l'Arche d'Alliance à Jérusalem. Et il va vouloir même construire une maison pour l'Arche d'Alliance qui porte ses tables de la loi. Et il va organiser toute une procession de Kiryat Yarim, qui est à côté d'Emmaüs, ou d'Abou Gosh actuellement, donc à quelques kilomètres de Jérusalem, crier sa joie à Dieu de sa présence, de son accompagnement, de sa fidélité qui lui a donné la victoire. Joie, alors que nous découvrons, joie de la venue du Seigneur dans son temple, que nous découvrons dans l'expression de salutation d'Élisabeth. Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne à moi? On retrouve dans cette salutation la même expression que David qui se pose la question « Comment l'arche de Dieu entrerait-elle chez moi ?» C'est exactement la même forme, la même... Alors, de la même manière que David va recevoir comme réponse du Seigneur que c'est pas lui qui lui construirait une maison, mais le Seigneur qui lui donnera une maison, et en ce sens, et cette parole était vraie à deux niveaux. Au niveau que ce n'est pas David qui a construit le temple, mais ça sera Salomon, son fils. Et deuxièmement, à un autre niveau, que c'est Dieu qui va lui donner une descendance, c'est le mot maison, ça marche aussi en français, on parle d'une maison, ça parlait d'une lignée, et c'est de cette maison que viendra le Messie. Il est de la maison de David. Voilà. Et alors on retrouve dans la phrase d'Élisabeth cette reconnaissance de Dieu, du Messie qui s'approche du descendant de David, qui est finalement le premier Messie, la première figure de Messie, David, qui reçoit l'onction. Voilà, David, qui est voilà, une figure de la joie, et d'ailleurs qui est liée à cette onction, à cet esprit qu'il reçoit de Dieu, voilà, qui lui fait chanter cette joie déjà de la présence et annonce de la venue du Messie parmi nous. Mais David, c'est aussi le pécheur, voilà, celui qui est tenté par la femme de son voisin, et pas seulement tenté, et qui va s'en repentir. Du pécheur qui demande pardon et du pécheur qui va trouver le pardon, qui va trouver réponse à sa supplication. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, dans ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Hein, c'est psaume 50. Voilà. Et qui sera bien sûr exprimé, cette prière, cette demande et cette réception finalement du pardon que David expérimente dans la parabole de l'enfant prodigue par Jésus, qui nous décrit d'ailleurs assez finement ce qui était déjà annoncé dans la vie de David, cet enfant cadet qui rentre en lui-même, qui se découvre finalement abîmé dans sa relation au Père à cause de son péché. Je ne suis plus digne d'être ton enfant, mais qui croit en la bonté du Père à cause du fait, pas qu'il est le Père, puisque cela est abîmé, mais qu'il traite bien ses employés. Vous voyez comme notre péché déforme l'image. Alors, nous gardons quelque chose, il est bon, on s'en souvient, mais pas de la paternité qui nous engendre, mais de la bonté exprimée, alors là, pour l'enfant prodigue, envers ses serviteurs. Alors, je ne suis plus digne d'être ton fils, mais accueille mon pardon et prends-moi comme l'un de tes serviteurs. Voilà. Et la miséricorde de Dieu qui nous rétablit dans notre identité de fils, et du coup, qui nous redonne accès à ce qu'il est, lui, le Père. Voilà. Voilà. Alors finalement, David, il y a une forme de perfection dans la figure de David qui vient du fait que, dans toutes les circonstances, on peut se tourner vers Dieu. Vous voyez, alors, c'est ce que je disais au départ avec ces psaumes. Mais si on peut résumer, il y a finalement pas une situation où David s'en est pas sorti. Précisément parce que toujours il s'est retourné vers Dieu en toutes circonstances. Qu'il soit pécheur, et que ce soit lui qui soit menacé par un autre pécheur, ou qu'il soit dans la joie d'une victoire donnée par Dieu et donc reconnue comme telle, vous voyez, toujours il y a un mode, il y a une possibilité pour nous d'entrer en relation avec notre Dieu et de vivre finalement de lui, de sa grâce. Voilà. Toujours David trouve le chemin qui conduit à Dieu, quelles que soient les circonstances. Voilà. Et il n'y a pas, encore une fois, de situation, et ça, ça me paraît très important, et parce que plus nous avançons dans la relation avec Dieu, plus nous expérimentons notre intimité. Et plus le tentateur nous fait croire que nous ne pouvons pas entrer en relation avec lui. Et que nous croyons, du coup, qu'effectivement, il ne faut pas que nous prions. Parce que si nous prions, nous serions hypocrites, nous rabaisserions Dieu à ce que nous sommes, et donc du coup il vaut mieux nous abstenir. Et en nous abstenant et en expérimentant finalement cette douleur finalement de ne plus être en relation avec Dieu, nous le supporterions comme ce qu'on appelle une purification. Et en réalité, nous nous dessécherions. Mais c'est une tentation très fréquente dès lors que nous avançons dans cette relation avec Dieu que le démon nous tend. Parce que oui, c'est vrai que nous sommes pécheurs, oui, c'est vrai que nous ne sommes pas dignes d'entrer en relation avec Dieu, oui, c'est vrai que même quand nous attribuons à Dieu tel ou tel bienfait, telle ou telle grâce, nous en gardons toujours une part pour nous et pour notre orgueil, oui, tout cela est vrai, mais cela n'empêche que nous sommes toujours, à cause de lui, rendus capables d'entrer en relation avec lui et de vivre de lui. Enfin, hors de lui, nous ne pouvons rien faire. Et dès lors que nous ne voulons plus prier, que nous croyons que nous ne sommes plus en phase ou que ça ne va plus, etc., nous sommes tentés. Voilà. Nous sommes tentés et il faut prendre les armes. Il faut se battre. Il faut entrer dans la lutte. Et quelquefois, d'ailleurs, notre prière ne peut être que lutte. Voilà. Et que c'est comme ça que Dieu nous affermit. Voilà. Et quelquefois, c'est fatigant parce que ça dure. Voilà. Mais je le dis avec d'autant plus de force parce que ça peut paraître un petit peu facile quand on relit comme ça à grands traits la vie de David. Sœur Emmanuel disait Yalla, chacun a son moyen de dire il faut y aller, quoi, mais en marche. Je ne retrouve plus, mais enfin Jésus plusieurs fois avec ses disciples, vous voyez, quand on lit par exemple l'évangile de Marc, on est frappé, et aussitôt, et tout s'enchaîne, et aussitôt, le rythme, Jésus s'arrête pas. Voilà, il se repose la nuit, il prie son père, et puis le lendemain, hop, il repart pour une ville, la ville suivante, alors qu'il voulait le garder. Et il y a quelque chose, voilà, il y a une marche, il y a une énergie, finalement, à engager, dans notre suite du Christ, dans notre volonté de nous accrocher à lui, de lui répondre « me voici », qui fait que si on appelle ça de la contemplation, c'est pas de l'inaction. Et que être des contemplatifs, il faut nous laisser faire par Dieu, se laisser faire par Dieu est une action. Voilà. Et que, voilà, il y a tout un... Et comme on l'a déjà évoqué d'autres manières, mais toute une série d'antinomies, d'apparents paradoxes, mais ce ne sont pas des paradoxes, ce sont des antinomies, c'est comme ça que ça marche ensemble, dans notre vie spirituelle, dans notre vie de raison, qui font que c'est pas très facile d'en rendre compte, mais qui, lorsque nous les expérimentons, sont le signe que nous vivons quelque chose qui ressemble à la relation avec Dieu, quoi. Voilà. Pour dire ça. Voilà pour ce soir. Nous terminons avec Salomon. La fois prochaine, Salomon et Élie. Et ce soir, pour notre temps d'oraison maintenant, on va reprendre comme la fois dernière, un long temps, il sera peut-être coupé par quelques chants que nous entendrons du sous-sol, mais c'est très bien, ça nous relancera dans notre prière silencieuse, mais voyez, en nous laissant, peut-être parce que j'ai essayé de nous rappeler avec Moïse et David, mais en essayant de nous laisser enseigner avec Cléophas, comme ce disciple d'Emmaüs par Jésus qui reprend les Écritures et qui par là veut nous conduire à le reconnaître, lui, comme celui qui vainc la mort, comme le ressuscité, celui qui nous donne accès à Dieu, et à Dieu avec tout son poids, sa gloire, à Dieu lui-même. Et dans la raison, c'est bien lui que nous voulons rencontrer, en toute confiance, avec ce que nous sommes, nos pauvretés, notre humanité, avec toutes ses ambiguïtés, et bien entrons maintenant dans la prière silencieuse jusqu'à 9h35, jusqu'à 10h15. Voilà.